Bien, Marco Di Spaltro nous a bien expliqué, en fait, tous les risques qui peuvent encourir les athlètes dans le domaine du sport quand il concerne les commotions cérébrales. C'est 21 000 personnes au Québec qui en subissent chaque année. Seulement dans la pratique récréative et de sport, c'est 57 par jour en tout. Donc, c'est vraiment un problème de société. Comment enrayer ce problème-là? Bien, on reçoit par téléphone Brian Morin, conseiller en sécurité, en loisirs et en sport au ministère de l'Éducation, qui vient nous présenter un nouveau protocole qui a été dévoilé cet été par le gouvernement. Bonjour, M. Morin.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce nouveau protocole et ce plan de gestion des commotions qui semble tenir à cœur, heureusement, au ministère de l'Éducation?
Si on prend les choses globalement, M. Breton, c'est que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a une section qui est dédiée aux loisirs et au sport, notamment une direction à la sécurité. Et puis, notre mission, c'est de voir à la sécurité des spectateurs et surtout des participants. Dans ce cadre-là, depuis 2014, pour plusieurs raisons, le ministère s'est impliqué justement avec les fédérations sportives, d'autres partenaires, à pouvoir faire de la prévention et une gestion plus adéquate des commotions cérébrales dans le domaine récréatif et sportif. Donc, dans cette perspective, d'abord, il y a eu un rapport qui a été déposé au ministère, ensuite un plan d'action. Du plan d'action où il y avait 19 mesures, il y en a une qui découle, c'était de faire un protocole de gestion des commotions cérébrales pour le milieu d'éducation et dans le cadre d'activités récréatives et sportives. Qu'est-ce que c'est un protocole de gestion? Dans notre cas, c'est un document seulement de 12 pages, mais dans lequel les gens qui encadrent des activités récréatives et sportives, et également les parents et ceux qui peuvent subir des commotions cérébrales, connaissent l'ensemble de la procédure, donc de l'incident jusqu'à la reprise complète des activités. On voit l'ensemble de la procédure et également à l'intérieur, il y a une fiche de suivi recto-verso où on présente toute la démarche. Cette fiche-là peut servir également pour consigner d'informations et surtout servir d'outil de communication entre la famille, l'équipe sportive, l'organisme qui offre des loisirs, l'école, le milieu de travail et aussi le réseau de la santé.
Donc, ce protocole qui vise essentiellement à informer, on en parlait en première partie d'émission, des fois, quand on est au niveau régional, c'est plus difficile d'avoir des spécialistes sur le terrain. Est-ce que ces informations-là sont faciles de compréhension pour un bénévole, par exemple, ou un parent?
Le document a été conçu pour informer les gens, mais au-delà d'informer, c'est vraiment d'agir. Donc, savoir quoi faire lorsqu'il arrive un incident et par la suite, quelles sont les autres étapes jusqu'à la reprise complète des activités. Donc, dans ce cas-là, on est parti de la situation présente au Québec dans le sport amateur, à savoir qu'il y a peu ou pas, à plusieurs endroits, de professionnels de la santé ou de médecins sur le terrain de jeu. Donc, cette situation a été prise en considération et on a interpellé un public de gens qui sont souvent des parents, des bénévoles, des gens qui ont une courte formation, par exemple, ça peut être en secourisme ou à d'autres éléments. Donc, ce document-là, on le fait le plus simple possible pour permettre une compréhension de l'ensemble des gens qui, rapidement, peuvent devoir réagir dans un incident de commotion cérébrale.
On parle d'identifier des symptômes, les interventions, de sortir, par exemple, un joueur du terrain si on soupçonne qu'il a subi une blessure à la tête. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ces symptômes-là sur lesquels on devrait être particulièrement attentif si on supervise un événement sportif?
Il faut comprendre qu'une commotion cérébrale, c'est une blessure invisible. Donc, on ne le voit pas à l'œil nu. Et dans ce cas-là, c'est souvent le mécanisme de la commotion cérébrale, c'est en fin de compte un mouvement rapide de va-et-vient de la tête à la suite d'un impact, que ce soit au visage, au cou, à la tête ou à l'ensemble du corps qui amène une force impulsive à la tête. Et dans ce cas-là, ça fait un va-et-vient rapide et le cerveau va frapper la boîte crânienne. Et pour avoir un soupçon de commotion cérébrale, ce qu'on dit, nous, d'abord, c'est si vous voyez un mouvement extrêmement rapide de la tête ou un impact significatif qui est en dehors de la norme, de retirer le joueur au moins pour 48 heures pour voir s'il va y avoir des signes et symptômes. Le meilleur moyen pour, au moins un indice pour savoir si c'est une commotion cérébrale, c'est des signes qu'on peut observer ou des symptômes que la personne qui aurait subi une commotion cérébrale peut nous rapporter. Comme par exemple, je vous donne des statistiques, selon une étude américaine au niveau du sport collégial, Ceux qui ont subi une commotion cérébrale, à 92% ont mentionné qu'ils avaient des maux de tête. À 68,9%, ils ont dit qu'ils avaient des étourdissements, difficultés de concentration, sensibilité à la lumière, problèmes d'équilibre, par exemple des gens qui vont vomir à répétition ou une seule fois. Donc, tous ces signes et symptômes-là peuvent laisser penser qu'il y aurait une commotion cérébrale. Donc, dans ce cas-là, on dit une fois que vous avez ces signes et symptômes, il faut aller voir un médecin pour avoir un diagnostic, savoir si véritablement on parle de commotion cérébrale, est-ce que c'est un autre problème, et c'est au médecin de diagnostiquer le tout.
Donc, la fameuse perte de connaissance, là, heureusement, on a fait du chemin depuis 10-15 ans, je pense, dans l'identification des symptômes, mais il y a quelques décennies déjà, on associait vraiment juste les commotions cérébrales aux pertes de connaissance, mais c'est pas du tout le cas, mais ça reste quand même un symptôme.
Oui, c'est un symptôme important. Selon les études que nous avons, selon les données, on peut dire qu'environ 10% seulement des situations de commotion cérébrale peuvent occasionner une perte de connaissance. Anciennement, vous voyez, tout évolue en fin de compte. Anciennement, par la suite, on le rapportait comme étant un signe observé, tout simplement. Et aujourd'hui, avec les nouvelles données internationales, les nouveaux consensus internationaux et dans le protocole du gouvernement du Québec, on dit maintenant, s'il y a perte de connaissance, ça fait partie des signaux d'alerte. Donc, c'est des signes et symptômes, mais assez important qu'il faut, ne faut pas tarder, il faut aller à l'urgence et aller consulter tout de suite.
Donc, le protocole qui va être circulé là, parmi les écoles, parmi les groupes sportifs, parmi les associations sportives, va présenter une liste de signes, de symptômes, d'alerte sur lesquels il faut être attentif. Une fois qu'on a sorti un joueur du terrain parce qu'on a l'impression qu'il peut avoir subi une commotion cérébrale, malheureusement, on se rend compte qu'il a effectivement subi une commotion cérébrale. Après, c'est quoi les prochaines étapes pour un retour qui va se faire de manière efficace et saine?
Donc, en présence de signes et symptômes, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il faut aller consulter un médecin pour avoir un diagnostic. À la suite du diagnostic, il y a ce qu'on appelle une reprise graduelle des activités. Dans le cas du protocole, j'invite les gens à aller le consulter, surtout la fiche de suivi, comme je disais, recto-verso, où il y a tous les signes et symptômes et toutes les étapes de retour aux activités. On dit une reprise graduelle, pourquoi? Parce qu'on veut aller, pour éviter les complications, on veut également prendre en considération également la capacité de résistance de la personne. Il faut comprendre que le cerveau a été heurté, a été atteint, est en train de se repositionner, de se reformer. Donc, il faut passer d'une activité à l'autre graduellement. Et lorsqu'on sent dans une activité, ça demande trop d'énergie, ou il y a des signes et symptômes qui réapparaissent, par exemple les maux de tête, plus important, il faut revenir à l'étape précédente. Donc, dans la fiche de suivi, dans le protocole, il y a deux tableaux. Il y en a un, c'est pour les activités intellectuelles. Pour l'instant, il est divisé en trois étapes. Donc, pour les activités intellectuelles, c'est principalement, dans ce cas-ci, les travaux à l'école, autant que regarder la télévision, lire également, donc, ou faire des projets qui exigent un apport important au niveau des capacités cognitives. Puis également, il y a un autre tableau qui existe dans le document, qui se rapporte aux activités physiques et sportives. Dans ce cas-ci, il y a 6 étapes, et pour chacune des étapes, on fait une description. Si on est capable de passer l'étape, dans certains cas, les 3 premières, c'est si les signes et symptômes n'augmentent pas, parce que maintenant, on dit aux gens, entamez tranquillement, selon les conditions qui sont marquées dans le protocole, entamez tranquillement les différentes étapes, soyez actifs. Donc, on met de côté ce qu'on aurait pu déjà entendre antérieurement, à savoir, il faut rester couché, il faut ne pas bouger. Il peut y avoir des situations comme celle-là, mais elles sont exceptionnelles parce que c'est des cas vraiment exceptionnels. Et ensuite, il y a les 3 dernières étapes. On dit qu'il faut qu'il y ait disparition des signes et symptômes, et on passe d'une étape à l'autre. Et dans certains cas, comme à la toute fin, si on pratique un sport où il y a des risques de chute, de collision et de contact, on demande une deuxième vérification médicale pour s'assurer que la personne est apte à retourner à l'entraînement qui détient ses risques, puis également à la compétition par la suite.
Mais la reprise graduelle, c'est vraiment le mot d'ordre qui est à suivre pour chaque personne qui a subi une commotion cérébrale. En terminant, est-ce qu'il n'y a pas un examen de conscience à faire ou un questionnement à faire sur les ressources qui sont disponibles pour les différentes associations régionales qui peut-être manquent d'informations ou encore de ressources pour avoir des spécialistes sur le terrain pour encadrer l'activité sportive de manière sécuritaire?
Le ministère et l'ensemble de ses partenaires, donc je vous dirais dans une très grande mesure les fédérations sportives, nous travaillons collectivement pour vouloir développer des outils, également de voir quels sont les éléments, les leviers qui nous permettent justement de transmettre cette information-là à l'ensemble de la population, parce qu'on parle ici d'un problème de santé publique. Je vous dirais que le ministère, très prochainement, va partir une première phase de sensibilisation auprès de la population, parce qu'on se dit il y a trois éléments qu'il faut changer et modifier. La première, c'est augmenter les connaissances. Et dans ce cas-là, vous avez parlé de 21 000 cas tout à l'heure dans les statistiques. Il est peut-être même à prévoir que statistiquement, le nombre va augmenter, pas parce qu'il va y avoir plus de commotion cérébrale, mais les gens vont être davantage informés et davantage sensibilisés. Le deuxième, c'est également les attitudes, parce que on sait pertinemment, selon certaines études, si dans certains cas, il peut y avoir une commotion sur deux qui n'est pas déclarée. Et dans ce 50 % souvent, c'est soit par manque de connaissances et également, il ne faut pas se le cacher, certains athlètes qui, pour toutes sortes de raisons, ne le déclarent pas et veulent continuer à jouer. Puis, ultimement, ben, il faut viser le changement des comportements, que ce soit les gens qui encadrent les activités, qui ne minimisent pas qu'est-ce qu'une commotion cérébrale, que les parents, ensuite, à la maison, on parle ici de mineurs, puissent offrir un encadrement adéquat et faire le suivi avec le réseau de la santé, mais également aussi les participants qui comprennent que une commotion cérébrale, si c'est bien géré, c'est pas problématique, mais en même temps, il faut vraiment pas prendre ça à la légère et suivre les différentes indications qui sont données, tant par le milieu de la santé que le milieu sportif.
Merci beaucoup, Brian Morin. On va mettre les informations sur notre site Internet si on souhaite consulter le fameux protocole en question. Merci beaucoup encore à nos deux invités. C'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Portez-vous bien.